Bonjour, on va parler jazz aujourd'hui, un jazz tourné vers l'avenir, mais qui va quand même se ressourcer à ses origines, puisque dans le studio d'Umpoco Agitato, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Rhoda Scott et avec Laurent Mignard. Laurent Mignard, on le connaît pour être trompettiste, mais aussi directeur de grand orchestre, compositeur, arrangeur. Quant à Rhoda Scott, on sait, Rhoda, que vous êtes pianiste, mais surtout organiste, et puis que vous êtes une Américaine de Paris, depuis longtemps. Alors, est-ce que vous travaillez avec Laurent Mignard depuis longtemps aussi? Laurent Mignard va donc au Méridien, au club Lionel Hampton, demain soir, être avec vous. Ça sera l'association d'un grand orchestre avec une organiste. Est-ce que c'est une association ancienne qui vous relie tous les deux?
C'est une association assez récente, puisque nous nous sommes mis en collaboration pour ce projet en hommage de Duke Ellington, mais je dois dire que dès le premier instant, c'était comme si on se connaissait depuis toujours.
Bon, c'est des premiers instants qui comptent quand même. C'est rare de voir un grand orchestre qui invite un orgue. Bien souvent, on peut avoir un invité vedette pour un grand orchestre. On s'attend davantage à avoir un souffleur. Est-ce que techniquement, de la part d'un arrangeur, d'un compositeur, est-ce que ça nécessite une acrobatie particulière, une finesse? Est-ce que vous avez changé un petit peu les scores des musiciens, Laurent, sachant que votre orchestre allait accueillir? Alors, comment l'orgue vient se placer au cœur de l'orchestre?
Il y a une tradition dans laquelle on se met, hein, on pose nos pas derrière ceux d'Ellington, pour moi, quant à conduire l'orchestre. Rhoda, elle, pose les siens derrière ceux de White Bill Davis, qui était l'organiste de la fin de la période d'Ellington. Et à partir de ce matériau de base, des enregistrements, des transcriptions que je réalise à partir des enregistrements originaux, des arrangements qu'on peut faire, mais très peu d'arrangements, c'est surtout des adaptations pour accueillir Rhoda dans les versions originales. On va faire en sorte que Rhoda puisse s'exprimer pleinement. Mais disons qu'on ne part pas de rien. Un matériau de base, oui, chez Ellington.
Et comment vous avez fait? Vous avez relevé vous-même les arrangements ellingtoniens? Ils sont tous parus? Vous vous êtes permis de temps en temps des libertés? Je sais que votre orchestre s'appelle, je crois, Dukish Orchestra.
Voilà, donc, le Dukish Orchestra.
La filiation est explicite quand même. Vous ne cachez pas vos intentions.
Non, non, mais il n'y a pas de raison. On parle quand même de l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle.
Mais ça, je suis bien d'accord avec vous.
Et voilà, on est tous d'accord autour de cette table. Donc, le projet de cet orchestre, c'est d'admettre ça, de le faire admettre à tout le monde, de faire revivre la musique d'Ellington sur scène et d'être très honnête dans la fidélité à Ellington, tout en gardant évidemment la part de créativité de chacun des musiciens qui vont jouer. Donc la spécificité de notre orchestre est que je transcris d'après les enregistrements originaux tout le répertoire. Ça a commencé il y a 2 ans avec les musiques sacrées à Saint-Sulpice, qu'on a recréées. Il y a 1 an, tout l'album Faris Suite a été recréé pour le festival Liban Jazz. Il y a 6 mois, on a fait un spectacle qui s'appelle Carnet de voyage, les traces d'Ellington sur les 5 continents pour le festival Jazz sur son 31, où là on avait emprunté à la plupart des suites exotiques d'Ellington. Et aujourd'hui, la commande du Méridien a été de recréer une grande partie de la New Orleans Suite. Et la New Orleans Suite, justement, le premier morceau, Blues for New Orleans, était interprété par l'orchestre de Duke Ellington et White Bill Davis. Donc c'était la porte d'entrée pour accueillir l'orgue. Et à partir de là, j'ai adapté le répertoire de telle façon à ce que sur chaque morceau transcrit, Rhoda puisse jouer, y compris sur les morceaux où il n'y avait pas d'orgue originellement. Et j'ai également adapté des grands standards d'Ellington pour que Rhoda puisse également jouer avec nous.
Alors justement, vous avez parlé à plusieurs reprises des suites d'Ellington, les suites exotiques, la suite d'Extrême-Orient, Faris Suite, les suites sur les musiques sacrées. En général, me semble-t-il, vous me corrigerez peut-être, il me semble que ce sont des compositions ellingtoniennes relativement tardives. C'est plutôt dans les années 50-60 qui s'est consacré à ces suites. Est-ce que vous avez fait appel aussi à toutes les périodes d'Ellington, ou il y en a certaines qui sont pour vous des périodes d'élection? Est-ce que les périodes qu'on a, la jungle music, si vous voulez, de la fin des années 20, du début des années 30, le grand orchestre, l'espèce de période d'or du début des années 40, est-ce que ce sont aussi des sons auxquels vous allez vous frotter, ou un peu moins?
La grande difficulté, c'est évidemment le compromis stylistique. Pour autant, les suites, les premières sont très anciennes. Black and Tan Fantasy, c'est déjà un film et c'est déjà 1927.
Hein. Oui, mais il y a une saveur musicale qui ne ressemble pas, évidemment, par exemple, à la suite des musiques sacrées. Voilà. C'est beaucoup plus proche de ce qu'il faisait avec des petits morceaux. C'est plus long, simplement. Mais c'est dans l'esthétique des années 28-30.
Oui, c'est vrai. Disons que la vraie clé, c'est la manière de jouer. Comment on va interpréter? Est-ce qu'on prend le son d'Ellington, la période Blanton des années 40? Est-ce qu'on se met sur la période des années 60, la période très prolixe ensuite, 60 et 70? En fait, on essaye de trouver un dénominateur de jeu commun. On est très inspiré dans le phrasé et l'articulation des années 40. Moi, je suis assez exigeant sur le son, sur l'articulation de l'orchestre. C'est l'essentiel de notre travail. Mais quand on va jouer, par exemple, In a Mellotone de 1941, et que l'instant d'après, on va jouer Oklupaka de la Latin American Suite, on va pas faire vraiment un grand écart. On va chercher, et c'est notre travail d'interprète, le meilleur dénominateur commun à toutes ces époques. Évidemment, c'est exactement comme un chef d'orchestre qui voudrait entreprendre de revisiter le répertoire de Mozart ou de Mahler. On est en train de parler d'une musique de répertoire, là. Ellington en tant que musique de répertoire.